petit peu dans la même optique d'essayer de comprendre les raccourcis. Vous avez un moment dit l'enfant mort ou l'enfant absent, volontaire ou involontaire dans une famille, doit être considéré comme abandonné. Je ne comprends pas. J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous considérez qu'un enfant mort ou un enfant absent puisse être considéré comme abandonné. Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît ?
Ce qui est important de préciser, c'est que lorsque je dis que l'enfant mort est à assimiler à un enfant abandonné, c'est au niveau du fantasme. C'est-à-dire que un enfant va mourir parce qu'il va inconsciemment se fantasmer abandonné par ses parents. C'est parce que, pour des raisons qui lui appartiennent, il va fantasmer que ses parents ne s'occupent pas de lui de la manière dont il voudrait qu'il s'occupe, qui va mettre en place une oblation de son moi. C'est un phénomène, c'est un processus autodestructeur qui fait suite à un fantasme lié à l'abandonnisme. Et c'est en ce sens qu'un enfant qui va mourir, en fait, pour son inconscient à lui, se vit abandonné. Alors, bien évidemment, à tort ou à raison. Quant à l'enfant absent, l'enfant absent est un enfant abandonné, mais abandonné au sens de projet d'enfant auquel on va renoncer. C'est en ce sens où il y a, comme je vous disais tout à l'heure, contrainte ou forcée, quelles qu'en soient les situations, à un moment donné, un couple qui n'a pas d'enfant va abandonner la possibilité d'avoir un enfant. Et s'il y a absence, l'absence ramène à la mort. On peut être absent par éloignement géographique, mais la mort relève aussi d'un processus d'absence. C'est en ce sens où j'ai associé ces deux éléments à l'enfant mort. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Pas tout à fait, mais bon, le lieu n'est pas à la polémique.
Si vous voulez rajouter quelque chose, vous allez-y, hein.
Bonjour, moi c'est juste pour comprendre aussi. Bon, je débute dans la profession un petit peu pédopsychiatrique. Vous avez dit que votre projet de soin, finalement, c'était de permettre aux patients de se libérer de ces emprises familiales, accession à un vrai self vis-à-vis à un faux self. Est-ce que le faux self, finalement, c'est un enfant qui est complètement pris dans un processus fantasmatique ?
Oui, oui, oui.
Est-ce que c'est ça ?
Oui, c'est véritablement l'inconscient qui va s'identifier à une histoire familiale qui n'est pas la sienne.
Et à travers ça, donc, est-ce que les parents justement qui veulent adopter un enfant ne doivent pas faire le deuil aussi d'un enfant fantasmatique et pas projeter leur enfant fantasmatique sur l'enfant qu'ils vont adopter ?
Oui.
Est-ce que c'est pas aussi, avant d'adopter un enfant, faire aussi bien ce sûr. Travail de deuil, puisqu'on voit aussi des pathologies qui se développent aussi à travers ça ?
On existe tous dans un fantasme, là on prend des mots et on joue avec les mots, ça devient un peu n'importe quoi. Je veux dire, le fantasme, il est dans toute vie. Le problème est de savoir si c'est un fantasme névrotique ou pas, etc. Mais on parle.
Le fantasme est toujours névrotique par définition même. Puisqu'il est pas, il s'inscrit pas dans le principe de réalité.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que ces parents-là, justement, ils doivent laisser la possibilité à l'enfant, justement, d'être dans ce self, dans son self.
Bien sûr.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà.
En théorie, dans une position idéale, effectivement, il serait souhaitable que tout parent qui s'apprête à adopter un enfant prenne soin au préalable de faire un travail sur eux pour effectivement se débarrasser de toutes leurs projections visant à avoir un enfant tel qu'ils l'imaginent. Parce qu'un enfant, dans n'importe quelle situation, dès l'instant où des parents attendent un enfant, ils vont de toute façon, avant même que cet enfant vienne au monde, le fantasmer, l'imaginer à tout point de vue, tant physique qu'intellectuel, comme pour eux-mêmes, leurs parents ont fantasmé qu'ils voulaient qu'ils soient. Donc effectivement, ça serait la position idéale. Oui.
Je voudrais réagir en tant que maman adoptive, en disant que ce processus n'est pas toujours facile à faire, et à mon avis pas souvent fait avant que l'enfant arrive, et que l'enfant peut être, lui, le facteur déclenchant de ce processus. et l'enfant réparateur, et permettre aux parents adoptifs justement de se débarrasser de ce fantasme. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ma fille a été le réparateur et le fantasme a disparu grâce à son arrivée. Donc je pense que le fait de le travail qu'il y a à faire sur ce... De se débarrasser de ce fantasme d'enfant idéal, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il faut absolument le faire avant que l'enfant arrive. Surtout que ce n'est pas très facile.
Non, on n'a pas dit qu'il fallait le faire absolument, mais que c'est vrai que c'était souhaitable. Mais bon, ce n'est pas quelque chose d'impératif, de toute façon. Et comme vous le dites, effectivement, on peut soi-même, de façon beaucoup plus instinctive, prendre conscience au moment où on adopte un enfant de certaines choses qu'on n'a pas toujours mis à leur véritable place. Oui.
Oui, moi je voudrais revenir sur ce qui a été dit, il y a une question qui a été posée tout à l'heure. J'interviens donc en tant qu'à la fois enfant abandonné et thérapeute. Lorsque l'enfant né sous X va faire une recherche de type en psychogénéalogie, vous avez dit sans avoir fait une recherche sur sa propre famille naturelle, semble-t-il, c'est ce que j'ai compris, il va pouvoir faire une recherche à travers sa famille d'adoption. Alors je voudrais, s'il est possible, d'avoir quelques explications.
Oui, alors je pense avoir déjà un petit peu répondu à cette question. C'est-à-dire que, en fait, l'inconscient va reconstruire sa famille fantasmatique auprès des parents de substitution, quels qu'ils soient, ou de toutes ces personnes qui vont l'encadrer au travers de son statut d'abandon, que ce soit en institution, que ce soit en famille d'accueil. De toute façon, ça ne se sera pas produit au hasard. Donc c'est en travaillant sur ces personnes-là, sur ces personnes qui entourent l'enfant, qu'on va pouvoir reconstituer et identifier la problématique familiale.
Et vous pensez qu'il est suffisant pour étayer, parce que lorsque vous avez décrit votre propre cheminement, c'est étayé quand même par des événements précis?
Oui.
Donc lorsqu'on n'a pas d'événements précis, est-ce que vous pensez que c'est suffisamment fort pour pouvoir travailler là-dessus?
Oui, ça donne des résultats tout à fait aussi satisfaisants qu'au sein d'une famille d'origine, oui.
Oui, tout à l'heure, vous avez parlé que l'enfant se construit sur les deux parents. Je crois que c'est vous qui avez commencé avec ça. Tout à l'heure, en entrée, vous avez dit que l'enfant se construisait à partir des deux parents.
Oui.
Ce qui est vrai. Il ne faudrait pas oublier que c'est une construction qui passe à la fois par une sorte de filiation institutionnelle, le nom, et aussi une filiation narcissique. Donc, quand ces enfants dont on vient de parler atterrissent, entre guillemets, dans des familles, on va appeler ça d'accueil ou autre, le travail... Je ne vais pas parler de travail analytique, s'il peut se faire avec un professionnel, à mon avis, devrait porter aussi sur cette construction qui s'est fait ou qui ne s'est pas fait, qui peut s'être fait à partir d'une simple image. Par exemple, un enfant qui aurait un père qui serait joueur, qui serait alcoolique ou qui répéterait un abandon. Je veux dire, c'est un travail de base. Tout à l'heure, vous avez parlé de travail analytique qui porterait, si j'ai bien compris, sur un renforcement du moi. Une reconstruction narcissique. Voilà. Donc je pense que c'est pas oublier cette partie. Certains courants appellent ça une loyauté mammifère, une loyauté aux parents. Donc c'est un des facteurs, à mon avis, qui est déterminant dans la reconstruction d'un enfant. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Et le deuxième, c'était tout simplement sur les symptômes qui correspondraient. Moi, j'entends plus comme des scénarios de vie qui permettraient à deux personnes qui se rencontrent de voir qu'avec tel autre, on va pouvoir rejouer ce qui a posé problème, trouver une autre sortie. Ça, c'est le fantasme, hein, trouver une autre sortie. En général, on sait que c'est une répétition, mais c'est pas, j'entends pas au sens où deux personnes abandonnées se rencontreraient pour, comme on se comprend bien. Je crois que c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est-à-dire, une personne qui a été abandonnée va chercher une personne qui va rejouer, qui va lui permettre d'être abandonnée à nouveau, ou de rejouer la scène pour trouver une autre sortie, une autre compréhension. À partir de ça, ça rejoint ce que vous dites, mais il me semblait important de pour moi, du moins, de clarifier ça. C'est-à-dire que ce n'est pas des symptômes qui sont les mêmes, mais des gens qui se rencontrent effectivement pas par hasard, mais pour rejouer une scène où l'autre est un acteur privilégié, mais qui n'est... Le truc le plus courant, c'est par exemple les enfants battus vont s'identifier par exemple à un agresseur quand ils sont gosses et vont rechercher une personne qui va leur permettre de rejouer ça. Donc ils ne vont pas chercher une personne qui sera elle-même enfant battu, mais plutôt, ou alors un enfant battu qui lui-même passera agresseur. C'est, voilà.
Alors, votre question est très, très complète. Ça serait très long à développer tous les points que vous avez évoqués. Est-ce que vous voulez que je réponde à un point en particulier ? Parce que alors là, ça serait excessivement long. Là, on n'a plus tellement de temps. Oui, en ce sens que, si vous voulez, de par l'abandonnisme, donc le sujet est soumis à une... complexe d'infériorité et une dévalorisation de lui, l'individu va se vivre donc on va dire complètement nul parce qu'il a été abandonné, on m'a laissé parce que je ne vaux rien. Donc dans le travail analytique, ça va consister essentiellement à permettre une renarcissisation et à la reconstruction d'un moi fort, puisque avant le travail, c'est un moi tout à fait défaillant. De par le fait qu'il est fantasmé, qu'on ne lui portait aucun intérêt, qu'on l'avait abandonné parce qu'il ne valait rien. C'est en ce sens où le travail analytique vise effectivement à une renarcissisation. Voilà, on me signale que le temps est écoulé.